VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, bonjour à tous. Il est 11h en temps universel. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a assuré hier à Dakar au Sénégal que les États-Unis veilleraient à faire ce qu'il faut en partenariat avec leurs alliés au sujet de la réduction ou non de leur présence militaire en Afrique, notamment au Sahel, confronté aux violences djihadistes. Monsieur Pompeo, qui s'exprimait devant la presse, s'est gardé de tout engagement et a laissé ouverte la question d'une réduction des forces américaines actuellement à l'examen à Washington. Après le Sénégal, le chef de la diplomatie américaine poursuit son périple africain en Angola avant l'Éthiopie jusqu'à mercredi, d'où il se rendra en Arabie Saoudite. Au Burundi, le Conseil national pour la liberté, principal parti d'opposition, a désigné hier à Bujumbura son président Agathon Rwasa comme candidat à la présidentielle prévue le 20 mai 2020. Le point avec Abdou Ramandia.
À 56 ans, Agathon Rwasa, chef historique des rebelles Hutu des Forces nationales de libération FNL, est considéré comme le principal rival du général Évariste Ndayishimiye, candidat du parti au pouvoir au Burundi. Issu également d'un mouvement rebelle Hutu, le CNDD-FDD. Nous sommes déjà dans une campagne électorale très dure parce que nous avons en face de nous un parti et un candidat décidés à tout mettre en œuvre pour garder le pouvoir. Mais nous sommes décidés à aller jusqu'au bout cette fois, a déclaré le représentant du CNL à l'international, Aimé Maguera. Agathon Rwasa, évincé de la tête du parti FNL fin 2010 avec la bénédiction du pouvoir, avait pris la tête d'une coalition d'indépendants, Amizeroi à Burundi ou Espoir des Burundais, devenu la deuxième force politique à l'issue des élections contestées de 2015. Il a dû créer ensuite un nouveau parti, le CNL, pour se conformer à la nouvelle constitution de 2018 qui interdit notamment les coalitions d'indépendants. Le président Pierre Nkurunziza a décidé de ne pas se représenter.
En RDC, au moins 14 personnes ont été tuées et plusieurs blessées dimanche à Kinshasa dans la spectaculaire collision d'un camion qui a percuté d'autres véhicules et fauché des passants à la suite d'un problème de frein, selon un nouveau bilan. Ce genre d'accident de la route constitue un phénomène inquiétant dans l'Est, au Nord Kivu, où l'on a enregistré plus de 1850 cas en 2019. Reportage de Charlie Kasereka, notre correspondant à Goma.
Les bilans très élevés et les reflets de l'insécurité sur les routes de la province du Nord Kivu pour l'année passée. Mais déjà en 2020, on compte plus d'une dizaine de morts sur les routes de cette province. L'organisme spécialisé du gouvernement congolais, c'est la CNPR, la Commission nationale des préventions routières, qui a donné ces chiffres. Bienfait Manegabe est son directeur provincial.
Sur l'ensemble du territoire du Nord Kivu, nombre de morts 261, nombre de blessés graves 891, nombre de blessés léger 735. Les causes majeures des accidents sont notamment l'ivresse au volant, l'excès de vitesse, fausse manœuvre ensuite, manque de contrôle technique, mauvais état de route.
Mais comment ces conducteurs obtiennent-ils leur permis de conduire pour ceux qui en ont? Amouli et Bahati, des noms d'emprunt pour leur sécurité, tous deux travaillent dans les transports en commun. Nous les avons rencontrés à l'arrêt bus au quartier Biréré de Goma.
J'ai eu mon premier permis à 17 ans, je n'avais même pas été testé. J'avais seulement payé 20 dollars, de même pour mon deuxième. Lors de l'achat de ce permis, on vous demande juste de rajouter 5 dollars pour ne pas passer le test. Je ne connais rien du code de la route, mais depuis 3 ans, je suis sur la route en tant que chauffeur de ce minibus.
Ce qui m'énerve dans tout ça, un jour, un de mes amis, motard, a eu son permis 5 catégories alors qu'il ne savait même pas conduire une petite voiture. Ça m'a révolté et depuis, je n'ai jamais acheté de permis. 4 ans aujourd'hui que je conduis, bien sûr, je n'ai jamais été contrôlé par la police.
Les chefs des divisions du transport et voies de communication ici à Goma n'a pas voulu se prononcer sur la question de la fraude des permis de conduire. Mais certains habitants de Goma, indignés par la situation et surtout la multiplicité des cas d'accidents, exigent des mesures drastiques et des contrôles efficaces pour le respect du code de la route. Michel et Pierre Bandou donnent leur point de
vie.
En fait, le contrôle de la route doit être beaucoup plus efficace. Nos routes ne parlent pas, parce que si nos routes parlaient, beaucoup plus d'accidents pouvaient être échappés à cause de ce langage de la route.
On m'appelle Pierre Bandou. Les contrôles techniques des véhicules seraient importants, mais aussi l'entretien routier. Les enjeux que nous avons sont toujours les enjeux des véhicules de seconde main.
Selon toujours les statistiques de la CNPR, la Commission nationale des préventions routières, en moyenne 72 personnes meurent chaque jour sur les routes en RDC, classant alors les pays à la 6e place au niveau mondial. Charlie Kasereka, Goma, pour VOA Afrique.
Au Cameroun, des hommes armés ont tué vendredi 22 civils, dont 14 enfants et des femmes, dans un village d'une province peuplée par la minorité anglophone dans le nord-ouest du Cameroun. Le drame s'est déroulé dans le village de Ntumbo. Le nord-ouest et le sud-ouest sont le théâtre depuis 3 ans de combats meurtriers entre militaires et séparatistes armés. Ces affrontements ainsi que les exactions et crimes commis par les deux camps, selon les ONG internationales, ont fait plus de 3000 morts et contraint plus de 700 000 personnes à fuir leur domicile. Le martyr pour le village d'Ogosago au Mali, dans la région de Mopti, 50 personnes ont été tuées, 20 portées disparues, des greniers et des animaux brûlés, selon un bilan provisoire. Retrouvons à Bamako notre correspondant au Mali, Kassim Traoré.
De nouveau l'horreur à Ogosago. Le vendredi 14 février dernier, en fin d'après-midi, un mouvement de panique s'est installé dans ce village du centre du Mali, où l'an dernier de nombreux villageois avaient été tués. La panique qui s'est installée la veille s'explique par le fait que le détachement de l'armée malienne sur place a décidé de plier bagages, nous confie un élu local. Les populations ont supplié les forces armées de sécurité, ajoute un autre conseiller. Les assaillants ont profité de la situation pour mener une expédition sur la localité. Un rescapé témoigne que ce sont des chasseurs traditionnels. Pour lui, certains étaient à moto et se sont d'abord postés dans un village voisin. Ils ont envoyé des éclairages dans le village de Ogosagoupil. Les militaires étaient déjà partis. Ils sont venus. Ils ont tué, brûlé des gens. Dans la panique, des villageois se sont sauvés. En route, certains ont été tués également. Les populations n'avaient aucun moyen de défense, aucune protection. Le bilan provisoire de cette attaque est de 50 morts, une vingtaine de personnes portées disparues. Et le chef de village de conclure que les assaillants menacent de revenir à Ogosago. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Un policier nigérien a été tué dimanche soir dans une nouvelle attaque djihadiste contre un poste de police dans la région de Tillabéri, dans l'ouest nigérien, proche du Mali. C'est la deuxième attaque commise en une semaine contre le poste de police d'Ayourou. La première avait fait 2 morts dans les rangs des policiers au cours d'un raid mené par des terroristes venus sur une dizaine de motos le 10 février dernier, selon les autorités de Tillabéri. Au moins 24 personnes ont été tuées et 18 blessées lors de l'attaque d'une église dimanche dans le nord du Burkina Faso, a annoncé lundi le gouverneur de la région du Sahel, le colonel Salfo Kabore. Un précédent bilan des sources de sécurité faisait état d'au moins 10 tués dans cette attaque djihadiste présumée au moment du culte dominical dans le village de Panzi, dans la province de Yaga, dans le nord-est du Burkina. Ces attaques dans ce pays frontalier du Mali et du Niger ont fait environ 750 morts et 600 000 déplacés depuis 2015. Selon l'ONU, 4 000 personnes ont été tuées en 2019 dans des attaques djihadistes dans ces 3 pays. Vous suivez VOA Afrique. Le Parlement chinois envisage un report de sa session plénière. La grand-messe annuelle du régime communiste a annoncé aujourd'hui l'agence Chine Nouvelle en raison de l'épidémie de coronavirus. Cette session de 10 jours lors de laquelle le Parlement ratifie habituellement à une forte majorité les décisions du Parti communiste chinois au pouvoir aurait dû s'ouvrir le 5 mars, la même date depuis 25 ans. Et non loin au Japon, l'accueil du public dans les jardins du palais pour l'anniversaire du nouvel empereur Naruhito le 23 février a été aussi annulé pour la même raison. Et par ailleurs, 14 personnes testées positives au nouveau coronavirus figuraient parmi les quelques 300 passagers américains et leurs familles évacuées par avion du paquebot de croisière bloqué au Japon. Ces personnes ont été isolées des autres passagers sur l'avion qui les évacuait, a précisé le département d'État dans un communiqué. Et puis au moins 5 soldats afghans ont été tués dimanche dans une attaque des talibans contre leur base dans le nord de l'Afghanistan.
Cette attaque intervient alors que l'Afghanistan attend le début d'une réduction de la violence annoncée par les Américains et les talibans qui ont annoncé conjointement une trêve partielle d'une semaine qui a débuté le 14 février selon les insurgés. Les contours de la trêve conclue entre talibans et américains, mais qui englobe les forces gouvernementales afghanes, restent pour le moment flous. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochain journal dans 50 minutes, vous retrouverez Henri Francisque pour un nouveau journal.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.